Voici une question dont la réponse va sûrement en surprendre plusieurs. Est-ce qu'on devient enfant de Dieu en passant par les eaux du baptême? La parole de Dieu va nous donner une réponse très claire aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a encore de très bonnes questions aujourd'hui. Et la Bible va certainement y répondre avec exactitude. Dieu n'aime pas nous laisser dans l'ignorance, peu importe le sujet. Voici nos questions. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de l'ascétisme? Si vous le permettez, j'aimerais donner la définition de l'ascétisme. Je l'ai trouvée dans le Petit Larousse. C'est la pratique d'une discipline de vie, d'un ensemble d'exercices physiques et moraux, pratiqués en vue d'un perfectionnement spirituel dans un contexte strict et austère. Alors, qu'est-ce que Dieu pense de ça? Est-ce que le baptême fait de nous des enfants de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut dire quand il nous ordonne de ne pas aimer le monde? Est-ce que Dieu s'intéresse à l'hygiène et à la propreté de son peuple? Est-ce qu'un organisme chrétien devrait accepter des dons d'argent, des dons qui ont été acquis illégalement? Est-ce que le mariage est sacré aux yeux de Dieu? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous donner une fois de plus tout le bon enseignement qu'elle va nous procurer. Mais premièrement, prions. Seigneur, on est à tes pieds. On est dans la joie parce qu'on sait que c'est toi qui vas parler à nos cœurs, que c'est toi qui vas nous instruire pour notre bien et pour ta gloire. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ avait été fait malédiction pour nous, afin que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Au chapitre 22, nous avons débuté la section des lois qui touche les relations personnelles et des éléments du quotidien du peuple de Dieu. Entre autres, nous devons veiller sur la propriété de nos frères dans le Seigneur. Nous avons aussi vu que Dieu fait des distinctions entre l'homme et la femme, chacun ayant son rôle. De plus, il a particulièrement protégé les femmes en leur accordant des droits. Nous avons vu aussi que Dieu se soucie de détails tels les oiseaux et la sécurité de notre domicile. De plus, Dieu veut que les siens se séparent du monde, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas selon les principes du monde. Le chapitre 23 fait aussi partie de la section de lois concernant les éléments domestiques et les relations personnelles. Le monde, la chair et le diable s'en prennent aux chrétiens quotidiennement à chaque moment de la journée. Nous vivons dans une époque où la population utilise un langage simple, mais parfois vulgaire. La Bible utilise un langage que tous peuvent comprendre, mais sans vulgarité. Il arrive que certains passent rapidement sur des sections qui traitent de sujets qui peuvent être personnels. Cependant, je crois que nous devons prendre le temps de s'y arrêter, car nous y trouvons des leçons spirituelles. Débutons notre lecture. Deutéronome, chapitre 23, verset 1er. Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Dieu n'approuve pas l'ascétisme. Ne trouvez-vous pas cette loi très étrange? Qu'est-ce que Dieu essaie de nous enseigner? Je crois que ce qui est décrit ici correspond à des pratiques ascétiques et que Dieu les condamne. Au Moyen Âge, en voyant la corruption en Europe, en Asie et en Afrique du Nord, des hommes se sont isolés du monde, dans des monastères, et ils ont pratiqué l'ascétisme, en se privant des plaisirs de la chair et en se flagellant. Je ne les blâme pas entièrement d'avoir voulu fuir la corruption, mais ce n'est pas la méthode de Dieu, qui désire que nous nous aimions les uns les autres et que nous mettions nos dons au service des autres chrétiens. Aujourd'hui, les chrétiens se sont fait, de nouveaux monastères, en devenant même anti-ascétiste, où ce n'est plus la privation de la chair, mais plutôt le festival de la chair. Plein les yeux, plein la bouche. Cinéma maison, ordinateur, télé, vidéo, magazine. Oui, volupté de la chair, bienvenue chez nous. Croustille, club de ci, club de ça, dépense ci, dépense ça, crédit ici, crédit là. Tout cela devient pour nous de l'esclavage. Le chrétien moderne, en est-il un? Fait-il partie de l'assemblée des justes? Jésus a dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Revenons à notre texte, verset 2. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa dixième génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Il faut naître de nouveau. Un enfant illégitime ne pouvait pas entrer dans l'assemblée de Dieu. Ceci peut nous sembler très sévère, mais qu'est-ce que Dieu nous enseigne par cet interdit? Il nous enseigne que nous devons naître de nouveau pour être un enfant de Dieu. De nombreuses personnes affirment être un enfant de Dieu alors qu'elles sont en fait des enfants illégitimes. Une personne peut être religieuse sans avoir passé par la nouvelle naissance. Une telle personne n'est pas un enfant de Dieu. Dieu fut très clair sur ce point. Nicodème était un pharisien, une personne très religieuse, un chef du peuple qui s'affichait comme un fils d'Abraham. Cependant, il était un fils de Dieu illégitime. Le Seigneur Jésus lui a dit qu'il devait naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Vous pouvez lire le récit de cette rencontre entre Jésus et Nicodème au chapitre 3 de l'Évangile selon Jean. Nous rencontrons beaucoup de faux chrétiens aujourd'hui. Ils sont baptisés et ils pensent qu'ils sont enfants de Dieu parce qu'ils sont passés par les eaux du baptême. Cependant, ils découvriront que les portes du ciel ne leur sont pas ouvertes au jugement dernier. Dieu n'a pas d'enfants illégitimes. Tous ses enfants sont passés par la nouvelle naissance. Vous devriez vous poser cette question aujourd'hui. Êtes-vous né de nouveau? Connaissez-vous le Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean, chapitre 1, versets 12 et 13. Êtes-vous un véritable enfant de Dieu? Qu'importe le nombre de rituels religieux auxquels vous avez participé. Qu'importe le nombre d'églises que vous avez fréquentées. Qu'importe combien religieux vous êtes. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous êtes un enfant illégitime. Il faut que vous naissiez de nouveau. Versets 3 et 4. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Les archéologues ont découvert que les Moabites et les Ammonites étaient extrêmement païens. Ils ont découvert plusieurs effigies de Baal en faisant des fouilles dans les ruines de ces civilisations. Les membres de fausses religions ne peuvent pas se joindre à l'assemblée de Dieu. Comment peut-on reconnaître une fausse religion? Simplement à leurs fruits. Ces peuples ne sont pas venus au-devant d'Israël, mais ils ont cherché l'aide de Balaam pour maudire les enfants d'Israël. Versets 5 et 6. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, tant que tu vivras à perpétuité. Ceci semble sévère, mais c'est un avertissement au sujet de se joindre à de fausses religions. Les fausses religions sont d'origine satanique. Le diable ne peut pas faire partie de l'assemblée de Dieu. Les fausses religions ont créé des problèmes dans ce monde plus que toute autre chose. Il est possible que Satan habite dans un édifice avec un clocher superbe et un orgue au son mélodieux. Méfions-nous des fausses religions qui n'ont pas de place dans l'assemblée de Dieu. Verset 7. Tu ne ras point en abomination l'Édomite, car il est ton frère. Tu ne ras point en abomination l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays. Dans le livre de la Genèse, nous avions vu qu'Édom est une nation formée des descendants d'Ésaü, le frère jumeau de Jacob. Si Israël devait avoir en abomination Moab et Ammon, il ne devait pas en être ainsi d'Édom, puisque ce peuple était composé de leurs frères. Nous ne devons pas aimer le monde. Ésaü représente la vieille nature du croyant. Nous pouvons haïr la chair, essayer de l'écraser, la punir et la mutiler, mais tous nos efforts seront vains. Nous ne devons pas haïr la chair, mais il ne faut cependant pas lui céder. Notre vieille nature ne doit pas nous contrôler. La chair est en rébellion contre Dieu, mais elle fait partie de nous et la haïr ne mènera à rien. De plus, la nation d'Israël ne devait pas haïr les Égyptiens, parce que les Israélites furent des étrangers en Égypte. Dans la Bible, l'Égypte représente le monde. L'apôtre Jean a dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » 1 Jean chapitre 2, verset 15. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas apprécier les beautés de la nature, notre maison, notre automobile ou tout autre bien matériel avec lequel Dieu nous a bénis. Cependant, nous ne devons pas aimer ces choses. Sans les mépriser, nous ne devons pas les aimer. Nous sommes des étrangers et des voyageurs dans ce monde. Tout comme les enfants, Israël ne furent pas tenus de planter des fleurs dans le désert. Nous ne sommes pas appelés à joindre des mouvements pour améliorer ce monde. Nous sommes plutôt appelés à proclamer la parole de Dieu. Nous sommes seulement de passage sur cette terre. Versets 12 et 13. Tu auras un lieu hors du camp, et c'est là dehors que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Dieu s'intéresse à l'hygiène et à la propreté de son peuple. Partout où le christianisme a pris racine, nous avons vu des améliorations dans ce domaine. Nous sommes concernés par la pollution de nos jours. Qui a pollué la planète? Certainement pas Dieu. Il nous a remis une belle planète avec de l'eau claire et de l'air propre. C'est l'homme, avec son cœur pécheur, qui détruit la planète. Si l'homme gérait la planète, selon les principes divins, elle serait une place saine. Verset 14. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. La propreté fait partie de la sainteté. Dieu veut que nous ayons un environnement, un corps, des pensées et des actions propres. Nous devons refléter la sainteté de Dieu dans notre monde contemporain. Voyez combien pratique est le livre du Deutéronome. Versets 17 et 18. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël, et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Dieu n'accepte pas l'argent mal acquis. Dieu n'accepte pas les prostituées et les sodomites parmi son peuple. Cependant, il accueille et transforme ceux qui se tournent vers lui. Mais il n'accueille pas ceux qui refusent de se repentir,
de changer de vie. Nous ne pouvons pas sanctifier un bien mal acquis en s'en servant pour des offrandes à Dieu. Celui-ci n'accepte pas le salaire du péché. Je vais maintenant faire une affirmation qui n'est pas toujours populaire aujourd'hui. Je ne crois pas qu'une organisation chrétienne devrait accepter de l'argent d'une compagnie qui fait des choses illégales ou immorales. De nombreuses entreprises douteuses essaient de se donner une aura de respectabilité en faisant des dons à des organismes chrétiens ou à des œuvres servant à de bonnes causes. Versets 19 et 20. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour argent, ni pour vivre, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras point de ton frère, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas rentrer en possession. Dieu veut que les siens s'entraident sans charger d'intérêts usuriers. Versets 21 et 22. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte, et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Un vœu devait être accompli même s'il était fait volontairement. Il est préférable de ne pas faire de vœux que de ne pas tenir la parole que nous avons donnée à Dieu. Versets 24 et 25. Si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras ton gré manger des raisins et t'en rassasier, mais tu n'en mettras point dans ton vase. Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main, mais tu n'agiteras point la faucille sur les blés de ton prochain. Les disciples de Jésus-Christ ont fait cela. Ce n'était pas un geste illégal ou un vol. Le chapitre 24 s'ouvre avec la loi mosaïque sur le divorce. Le reste du chapitre traite des relations interpersonnelles dans lesquelles le croyant doit faire preuve de miséricorde. Débutons notre lecture du Deutéronome chapitre 24, versets 1 à 4. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce, et, après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira, et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce, et, après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison. Ou bien, si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel, et tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Aux yeux de Dieu, le mariage est sacré. Vous vous demandez peut-être pourquoi Dieu ne permettait pas à l'épouse de retourner vers son premier mari. Dieu n'approuve pas l'échangisme, et ce comportement y est équivalent. On ne peut jouer au yo-yo avec le mariage. Dieu semble autoriser une façon facile de divorcer, mais ce n'est pas le cas. En fait, la lettre de divorce est une formalité légale qui ralentit le processus. Ce n'est pas une lettre qu'un homme pouvait rédiger sur le coin de la table dans la cuisine. Pourquoi est-ce que Dieu a permis le divorce? Voilà la question. Et cette question fut posée à Jésus. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Matthieu chapitre 19, versets 7 à 9. Le Seigneur Jésus a autorisé le divorce seulement pour cause d'adultère. Dans l'Épître aux Hébreux chapitre 13, verset 4, nous lisons « Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure. » car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Dieu voit ce qui se passe dans ta chambre à coucher, que tu sois seul ou avec quelqu'un d'autre. Oui, Dieu connaît ta vie sexuelle. Je répète ce verset d'Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. C'est-à-dire, exempt d'adultère et de débauche. Verset 5. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée, et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté par raison de famille pendant un an, et il réjouira la femme qu'il a prise. Dieu protège le foyer même en temps de guerre. Le mariage est sacré pour Dieu. Le mariage est une institution divine. C'est son plan pour le bonheur de l'homme. Versets 14 à 20. Tu ne primeras point le mercenaire, pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin, et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui y seront restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Dieu prend soin des pauvres. Dieu avait tout un programme pour secourir les pauvres, et il fonctionnait bien. Que fais-tu, toi, du principe de Dieu, de celui du partage? Regarde bien autour de toi. Il y a certainement des gens dans le besoin. Regarde ce que tu pourrais partager avec ces gens-là. Démontre, manifeste la charité, l'amour. C'est un signe concret d'appartenance à Dieu. Si tu as reçu Christ dans ton cœur, comme ton Sauveur et Seigneur, ben, tu es appelé maintenant à tendre la main vers ceux qui sont dans le besoin. Le grand besoin de cette humanité, c'est d'entendre l'Évangile. Toi, qui as reçu ce message de Dieu, tu es invité à le partager avec d'autres. Le moyen par lequel le Seigneur aimera atteindre les gens de ton entourage, c'est en passant par toi-même, par la personne que tu es. Tu es son instrument. Il voudrait bien l'utiliser afin de rejoindre d'autres avec l'Évangile. Tu reconnais les besoins des gens? Va les combler. Dieu t'encourage à le faire, et Dieu te donne la force et le courage de l'accomplir. C'est une œuvre juste, une œuvre qui honore et glorifie ton Père céleste. Prochaine émission, Deutéronome chapitre 25 et chapitre 26.
Merci, Régent. J'ai bien aimé t'entendre parler de la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Naître de nouveau, ce n'est pas compliqué. Comme Régent nous l'a lu dans l'Évangile de Jean au premier chapitre, les versets 12 et 13, il est écrit qu'à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, qui est Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Chaque enfant qui naît a des parents. Certains parents ont voulu cet enfant. Et certains parents disent ne pas avoir voulu d'enfant, ou un enfant en particulier. Ça doit être terrible pour un enfant de penser que ses parents ne l'ont pas voulu. Mais peu importe qui tu es, mon ami, peu importe si tes parents ont voulu de toi ou n'ont pas voulu de toi, Dieu veut que tu deviennes son enfant. Que tu sois le plus grand pécheur au monde ou la personne la plus pieuse au monde, Dieu veut que tu deviennes son enfant. Et il a pris les grands moyens pour que tu puisses le devenir. Il t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que si tu crois en lui, tu puisses recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Dieu veut que tu naisses de nouveau, que tu deviennes son enfant, son héritier. Il veut que tu sois co-héritier avec Christ. Paul l'exprime réellement bien dans son épître aux Romains, au chapitre 8, verset 17. Il dit que si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Imagine, des pécheurs comme nous, puisqu'on sait qu'on est tous pécheurs, comme nous l'affirme l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, au chapitre 3, verset 23. Alors, je disais, des pécheurs comme nous, qui vont être co-héritiers avec Jésus, qui, lui, n'a jamais péché, mais s'est laissé traiter comme un pécheur. Et il s'est laissé flageller, couronné d'épines, craché au visage, donné des coups de poing, des coups de fouet, pour moi, pour toi. Il s'est laissé crucifier sur une croix, tout ça par amour pour nous, afin de payer la dette de nos péchés. Et ce Jésus d'amour est en train de te dire, peu importe qui tu es, je t'aime d'un amour éternel et je veux te donner la vie éternelle. En ce moment, tu n'as qu'à croire en moi. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, verset 24, Jésus a dit quelque chose qui s'adresse aux gens de toutes les époques. Pendant que je vais te lire ce verset, pense au fait que c'est Jésus qui est en train de te le dire, aujourd'hui même, à travers ma voix. Il dit, « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En ce moment, passe de la mort à la vie. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. »
Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance.
Une minute, Régent. Est-ce que c'est compliqué, ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très, très intellectuel.
Hein? Rien de plus facile, Caro.
Oui.
Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison.
Oui.
De nous commander ces petits livrets. Et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions.
Est-ce qu'il y a beaucoup de
par cœur? En rapport avec le texte qu'ils auront lu. Du par cœur. Quasiment pas de par cœur.
Oui, c'est intéressant.
C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi.
Pour mieux connaître Dieu.
Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller. Car son auteur, Dieu, est vivant.
Ah, ça, j'en suis certaine, Régent.
Il a des choses très importantes à partager avec nous.
J'ai le goût de m'inscrire.
Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance, à partir de chez vous. Pour toute correspondance.
Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
En composant le 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, ou via courriel
à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, Québec, G1G 6P2. À demain!
Oui!
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.